Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Spotzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 159, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je reçois Louisa Werner et franchement, je n'ai pas la moindre idée de qui elle est. Tout ce que je sais, et c'est vraiment pas grand chose, c'est que Louisa est allemande, vit à Grenoble et prépare une thèse sur, tenez-vous bien, l'intégration neurosymbolique des connaissances et du raisonnement. Après avoir pas mal travaillé sur l'intelligence artificielle et le deep learning, cela va sans dire. À la base, Louisa est une rameuse. Son dernier résultat est une deuxième place pour l'aviron simple léger final B au championnat du monde U23 en 2016. Après une brève incursion en cyclisme sur route avec le team Stuttgart, Louisa s'est tournée vers l'ultra et croise souvent la route de notre bien-aimée Nathalie Bayon. Récemment, elle était sur la RAF 500, mais surtout sur l'Italy Divide et la Free Peaks Bike Race. Une balade de 2500 km entre Vienne et Nice. Voilà. C'est vraiment le minimum à savoir sur Louisa. Pour le reste, je lui laisse la parole. Bonjour Louisa. Première question,
bonjour.
Es-tu satisfaite de ta vie?
Ah oui, j'habite à Grenoble, j'habite au milieu de montagne. Je suis super satisfaite. Hein. C'est... voilà.
Et ben voilà. Tout à l'heure, tu m'as dit, non, je viens pas de Stuttgart, je viens de... J'ai pas retenu le nom du bled.
Würzburg.
Ah ben oui, mais suis-je bête. Würzburg.
Würzburg, voilà, c'est une heure de Francfort, c'est encore en Bavière, mais voilà, c'est pas en, dans les Alpes, mais ouais. Quand même c'est une belle ville, hein, c'est voilà.
C'est une belle ville. Et tu y retournes régulièrement? T'as encore de la famille là-bas ou pourquoi
oui,
pourquoi tu as quitté l'Allemagne pour Grenoble?
Heureusement, j'y ai encore de famille, hein. Et j'y retourne parfois par an pour les voir. Oui, en fait, je fais pendant mes études, je fais un semestre Erasmus. Mm-hmm. Et j'ai fait des études à Karlsruhe et j'ai eu une coopération avec Grenoble. Et alors, j'ai passé quelques mois ici. Et voilà, je me sens bien à Grenoble, alors mon équipe où j'ai travaillé pendant Erasmus, ils m'ont donné une position pour la thèse. Et oui, moi, j'ai pris la position et maintenant je suis à Grenoble.
Donc tu es une grenobloise d'adoption heureuse.
Voilà, c'est exactement ça. Je suis une crélou, hein. Tu connais le terme crélou?
Alors là...
Grélou, on dit c'est Grenoble et Rélou. On dit ça pour les skieurs qui sont vraiment fous, ou les sportifs de Grenoble, les gens qui viennent d'étrangers et qui font le sport tout le temps, avant boulot, après boulot.
Ah non, j'ai pas poussé la culture, j'ai eu une expérience très courte avec deux grenobloises, mais on n'a pas eu le temps de pousser quand même sur le folklore local, donc voilà.
Alors maintenant tu sais, hein.
Ben voilà, bah écoute, si ça me ressort, si ça me sert dans une conversation, je t'enverrai un message et je te dirai, je te dirai quoi. Et voilà. Est-ce que ça te sert d'être à Grenoble pour ta pratique ultra? Alors que si tu étais resté à Würzburg ou à Francfort, est-ce que ça serait pareil? Ou si on reprend l'exemple de notre ami Ulrich Bartholmos qui a quitté Munich pour Gérone, est-ce que ça a quand même une plus-value pour toi d'être à Grenoble plutôt qu'à Würzburg ou à Francfort?
On ne sait jamais ce qui serait passé si j'étais restée là. Mais en fait, oui, bien sûr, je pense que Grenoble et l'esprit de la vie a une grande influence sur mon développement sportif. En fait, la première fois quand je dors dehors pendant un trip bikepacking, c'était en fait avec Nathalie Bayon. On est roulé ensemble.
Toujours dans les parfois,
et
Emma.
Voilà, et on a fait du bivouac. Et ici, il y a tellement du monde qui fait du vélo, qui font du bikepacking, aussi des gens qui font du rando. À côté de montagne, il faut, voilà, il y a vraiment une grande communauté de sport, aussi pour le sport d'hiver. Et c'est voilà, beaucoup de jeunes. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment spécial pour Grenoble.
Comment tu as fait la transition de l'aviron au vélo?
Bonne question. En fait, les rameurs, ils ne font pas que l'aviron. Normalement, on ajoute aussi un peu de musculation et un peu d'entraînement endurance. Et le vélo, c'est très bien pour équilibrer des sports différents et ajouter un peu plus d'entraînement endurance. Et comme ça, j'ai commencé à faire des séances de vélo à côté d'aviron pour complémenter mon entraînement. Et en fait, un jour, j'ai remarqué que le vélo me plaît trop. Et à la fin, je l'ai remplacé. Hein. J'ai eu c'était une situation où j'ai eu aussi des, comment dire, injuries.
Blessure.
Et blessure. Ah oui, voilà, blessure. Et comme ça, j'ai seulement fait du vélo et j'ai remarqué que ça ne me plaît plus, en fait.
Ça te plaît plus que l'aviron?
Oui, bien sûr, l'aviron, c'est un bon sport, mais dans ces moments-là, j'ai aussi eu envie de changer quelque chose, parce que parfois, dans la vie, on veut faire autre chose, hein, on veut avoir un peu de variation, et voilà, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau.
Est-ce que tu t'es retrouvé tout de suite à un niveau extrêmement correct, parce que tu es passé de l'équipe nationale en aviron à finalement une équipe, disons, de niveau national, le team Stuttgart?
Oui.
Ça s'est fait assez vite finalement, parce que l'aviron, ton meilleur résultat, c'était en 2016. Et j'ai cru voir que le team Stuttgart, tu as couru avec eux jusqu'en 2019.
Oui, parce qu'entre mon dernier résultat, j'ai eu une blessure, mais je m'ai encore entraîné. Et après, j'ai eu une autre blessure. Pour ça, il n'y avait pas d'autres résultats, mais tout le temps, j'aimais entraîner. Et en fait, j'ai eu des belles numéros de FTP, ou c'est qu'on dit le seuil, on dit ça.
Oui, j'ai eu des bons résultats sur des tests d'effort, on va la faire simple.
Voilà, c'est exactement ça. Et comme ça, ils m'ont dit, tu peux essayer hein, chez nous, dans l'équipe. On te donne l'occasion de faire les courses avec nous et tu peux voir si ça te plaît ou pas. Et c'était juste à cause du numéro. Et je pense, en ce moment-là, dans le sport des vélos, il y a beaucoup de gens qui viennent d'autres sports et qui sont très bien au vélo. Hein. Mais pour moi, en fait, c'est que j'aime pas trop dans les courses des vélos, les courses dans le peloton. Je n'aime pas trop... le stress là, il y a beaucoup de chutes et j'ai toujours eu un peu peur et en fait ça, c'est pas vraiment un truc pour moi. J'aime toujours bien passer du temps avec les autres filles et rouler avec eux, mais les courses soi-même, ça me fait un peu peur et pour ça j'ai arrêté ça.
Ouais.
Voilà.
Ouais, un petit manque de technique vélo, rouler en peloton et tout.
Oui,
vrai que ça fait peur. Ça peut faire peur.
Oui, ça roule super vite et tu vois seulement les autres coureurs. Et je pense que c'est un peu que tu perds la contrôle. Hein. Tu perds la contrôle parce que si quelqu'un tombe avant toi, tu n'as pas beaucoup de choix à réagir. Ou si tu es débutante dans le peloton comme moi, moi, je trouve vraiment difficile. Et en fait, on a aussi passé beaucoup de temps d'être en voiture pour aller à les courses.
Oui.
Mais moi, en fait, ce que j'aimais toujours le plus pour les vélos, c'est les longues sorties dans la nature, profiter, faire une pause café. Et ça j'ai manqué. Hein.
Alors, comment tu es passé justement de la course à vélo, en peloton, à ta découverte de l'ultra et qu'est-ce qui t'a fait te dire « ça, c'est un truc pour moi, ça va me plaire »
En fait, il faudrait un peu de temps pour recommencer le sport dans une manière compétitive. Parce que après le vélo, j'ai vraiment eu envie de faire le sport juste pour moi. Rouler, être dans les Alpes, découvrir les grands cols, faire des photos. Et je me sentais très bien en faisant ça. Mais oui, je pense que j'ai eu un peu besoin d'une pause à cause du sport compétitif. Mais pendant le Covid, tout était un peu plus ennuyeux que normalement. Et il y avait un. J'ai toujours fait les longues sorties, mais juste pour moi. Mais j'ai vu le film, je ne sais pas si tu connais, il est en allemand, mais maintenant c'est avec des sous-titres anglais. C'est sur le Three Peaks Race, le Three Peaks and In Between, c'est le nom de titre du film. Et ça, c'est un portrait de Jana Kesenheimer, une coureuse qui a fait le Three Peaks. Et c'était filmé comment elle roule dans les Alpes, ses émotions et tout ça. Et quand j'ai vu ce film-là, j'ai pensé, ah, ça, je vais faire ça. Et voilà. Alors, mais la prochaine année, c'était jusqu'à Barcelone, parce que l'arrivée, c'est toujours entre Nice et Barcelone. Mm-hmm. Moi, je pensais à Nice, c'est beaucoup plus facile pour moi pour organiser. Alors, je pensais, OK, j'attends jusqu'à ça va arriver à Nice. Et voilà. À côté de ça, j'ai décidé de m'inscrire à Italy Divide, mais aussi à cause du Covid, je m'inscris pour, je pense que c'était pour printemps 2020.
Mmh. Non, voilà. 2020.
Voilà, les numéros en français.
Hein, déjà assez dans la merde en 2022, c'est pas la peine de trop anticiper.
Oui, voilà, mais ça a pris du temps jusqu'à c'était voilà, je pourrais participer. Et en fait, c'était ce printemps quand j'ai participé. Ouais. Mais la première course en ultra, ce que j'ai fait, c'est ce dernier septembre avec une copine qui est aussi à Grenoble, le Switzerland Ultra Cycling Challenge, et on a fait ensemble en équipe. Et c'était une course super sympa, et j'aimais tout de suite bien l'esprit que c'est pas que les coureurs sont compétitifs, c'est plus un esprit de avoir un défi ou un but, et tout le monde. Veut y arriver ensemble à finir passer but, et ce sont pas vraiment les compétiteurs ou les comment dire mais on travaille ensemble, c'est un truc ensemble, et l'esprit c'est vraiment convivial, et tout de suite ça j'aimais bien dans la communauté de ultra. Et voilà, maintenant cette année il y a 3 courses ou non encore plus hein. Voilà.
Oui, là pour l'instant, cette année, tu as fait 3 courses. Donc, ta saison a débuté par l'Italie Divide. Et après, tu as fait la RAF 500. Et là, récemment, donc il y a, disons, une semaine, la Free Peaks.
Voilà. Ouais. Et il y a aussi Badlands.
Ouais. Voilà. Bah oui, parce qu'on va se voir à Badlands.
Ah oui, toi, tu es aussi là personnellement ?
Bien sûr.
Ah, super.
Attends, il va y avoir un monde fou, ça va être génial. On va s'éclater.
Super.
Il va y avoir plein de monde, et ça va être vraiment génial. Alors en tête d'affiche, je ne sais pas qui il y aura, oui. Parce que je sais que Ulrich ne reviendra pas, Mathia, je ne sais pas. Oui. Donc on verra bien. Je sais, comme je te disais tout à l'heure, il y aura Marion Dwiznik.
Elle fait la deuxième fois, elle a gagné la dernière année.
Elle a gagné l'année dernière, elle revient, et en plus elle l'a annoncé officiellement tout à l'heure sur Instagram. Elle me l'avait déjà dit il y a quelques semaines, qu'elle revenait. Olivia Dillon ne sera pas là parce qu'elle sera en pleine grossesse, en pleine fin de grossesse, donc ça ne sera pas la peine. Okay. Oui. Mais il va y avoir un monde fou, et ça va être génial. Et ça fait partie des épreuves, comme tu me disais tout à l'heure, où il y a un gros plateau féminin. Oui. Avec un gros niveau et une grosse densité. Donc, pour toi qui recherches ça, c'est vraiment la course parfaite.
Super. Je pense, je connais aussi une fille, Linda, qui a gagné le Bohemian Border Bash. Si je me souviens bien, je pense qu'elle est aussi là. Mais je ne suis pas 100% sûre. Mais... Oui, j'ai très envie de rouler en Espagne. Hein. Je ne suis pas trop roulée en Espagne. Et le Pico, comment il s'appelle ?
Pico Veleta. Sommet.
Voilà, j'ai trop envie, hein. J'ai tellement envie d'y aller, hein. C'est super. Juste pour ça, je veux faire Badlands. Hein.
Ça va être, on va pas faire bisquer tous les gens, enfin, saliver tous les gens qui n'y vont pas, mais c'est vrai que de se taper le Pico Veleta, donc vraiment officiellement le col le plus haut d'Europe, sachant que ce n'est pas le col de la Bonnette, mais c'est bien le Pico Veleta. Voilà. Parce qu'on le finit par chemin, et ça va être vraiment vraiment super quoi. Les déserts, la chaleur, le manque de ravitaillement,
ça va être super.
Ça va être un montage. Tel les coups de soleil. On va cramer, on va avoir des coups de soleil, on va rien bouffer, on va dormir à poil dans le sable, à bouffer des racines. Ça va être super.
Belles vacances, hein, belles vacances.
Ah, t'as vraiment les vacances. Les vacances entre nous, ça va être génial. Hein, on s'éclate. T'as vraiment Grenade? Moi, je vous le conseille, hein. Granada, ça va être super sensationnel, quoi. Donc moi, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte d'y être. Du coup, la semaine dernière, tu as terminé la Free Picks.
Voilà.
De quoi va être, avant que l'on revienne sur ton printemps et sur donc, ta Free Picks, entre guillemets, victorieuse chez les femmes, et surtout ta 7e place au classement général, de quoi va être fait ton été?
Qu'est-ce que
tu vas faire
en
cet été?
En fait, cet été, oui, c'est que je fais normalement un peu beaucoup de backpacking, mais je pense que ce qui était différent hein, cette année, ou ce n'est pas exactement l'été, mais ce qui m'a aidé beaucoup en gagner de forme, je pense, c'était le ski en hiver. Et très tard, j'ai recommencé à faire du vélo. En avant, j'avais un peu peur que ça ne marche pas avec les vélos, mais ça marche très bien avec la forme. Voilà. Et oui, j'ai commencé par les sorties normales. Hein. J'ai fait un petit stage avec des copines à Côte d'Azur en mars. Et pendant l'été, j'ai essayé de faire plus de volume, augmenter le volume. Et j'ai aussi fait des grandes sorties comme Tour de Voinoise. C'était presque 300 km, je pense, et 7000 dénivelé. Où je fais tout de Belle d'Orne, c'est aussi un truc comme ça, je pense 250 et 6000. Et j'ai vraiment essayé d'habituer mon corps, mes genoux, mes tendons à le dénivelé. Parce que je pense que ce qui est important pour une course comme Three Peaks ou aussi le Badlands, c'est vraiment de faire le dénivelé. Hein.
Ouais.
Parce que rouler dans le plat, c'est... oui, voilà, ça... normalement ça va. Mais... ce qui est vraiment dur, c'est monter. Et je pense qu'il faut bien habituer le corps à cet effort.
Ouais.
Oui, mais j'ai aussi fait de bikepacking. C'est pas tout le temps les sorties hyper longues. Hein. Pendant la semaine, je travaille aussi. Je fais des séances course à pied, je fais des séances natation. J'essaie toujours aussi un peu d'ajouter d'entraînement alternatif dans les autres sports. Parce que je pense que ça m'aide à améliorer la forme. Hein. Parce que par exemple, la course à pied, c'est plus intense pour moi. Et comme je fais un Ironman, pour aussi un peu t'entraîner. Mais je pense que pour les vélos, ça m'aide aussi. Hein.
Ouais.
Ça me donne des autres incentives, peut-être, pour mon corps, pour améliorer la forme, je pense.
Ouais, ça permet de le bousculer un petit peu. On va dire, et de travailler ton, si on peut le dire simplement, ton niveau de forme en amenant une sollicitation nouvelle pour le bousculer un petit peu et lui dire ça tu sais pas le faire. Voilà, donc tu vas être obligé de t'adapter. Et t'as dit un truc super intéressant. La semaine dernière, j'ai fait un épisode avec un épisode spécial débutant, faire son premier 100 km en gravel. Oui. C'était super intéressant. Et on a parlé de la fameuse trilogie, en fait, dénivelé, durée, distance.
Oui.
Et en fait, on va pouvoir jauger la difficulté d'une sortie avec ça. Et tu as dit un truc très intéressant qui est quand on fait du dénivelé, en fait, il faut habituer ses tendons, tout le système musculaire aux pressions que tout cela va recevoir. Et faire 200 km, c'est une chose. Faire 200 km de plat, c'est bien. Mais faire 200 km ou 300 km avec beaucoup de dénivelé, c'est autre chose. Et j'ai l'impression, à voir comment se déroulent les épreuves et comment les gens abandonnent parfois, que beaucoup ne sont pas prêts justement à encaisser ces pressions, ces tensions sur les ligaments, sur les tendons, sur les muscles, évidemment, les muscles des cuisses, des mollets et même le haut du corps. Simplement par manque de préparation, et là tu l'as très très bien dit, il faut vraiment faire du dénivelé. Et petit cadeau supplémentaire,
voilà,
trouver les développements adaptés et rouler avec le chargement,
voilà, et aussi avoir du patience. Et par exemple, si je fais des sorties super longues où je suis pas sûre si je peux le faire, normalement je fais comme ça que le dernier col, c'est j'ai le choix si je peux le faire. Parce que je ne veux pas risquer que je suis à l'autre côté du col d'Isaran et j'ai du mal à genoux, mais il faut remonter pour arriver à la voiture.
Ouais.
Et pour éviter ça, j'essaie de, si je veux faire quelque chose que je ne sais pas, j'applique les stratégies comme ça pour avoir le choix à la fin. Oui, mais c'est vraiment, je pense qu'il faut vraiment avoir de patience pour s'y habituer. Bien sûr, en montagne, comme j'habite à Grenoble, c'est une belle occasion pour s'entraîner en montagne. Hein, c'est...
Oui, mais même, c'est bête, mais même sur le, même quand on habite dans une région non montagneuse, et encore mieux lorsque l'on a un home trainer connecté, on s'y habitue très très bien. On s'y habitue très très bien.
Oui.
Donc c'est vrai que le coup de pédale de la montagne, il est extrêmement spécifique, mais n'empêche qu'on peut quand même simuler ses tensions, ses pressions musculaires et tendineuses, ligamentaires, quand même malgré tout un petit peu, quoi. Quand même. Quand tu dis la patience, ça veut dire quoi? Quand tu parles de patience.
Ça veut dire que tu commences pas un jour à l'autre. Moi, maintenant, tu regardes Strava, je fais les longues sorties. Mais j'ai pas fait les hyper longues. J'ai pas commencé par les 300 km. J'ai commencé peu à peu. Ouais. Et il fait du long temps que je fais du vélo. Et il fait déjà du long temps que je fais des grands cols, de la dénive. Ça n'arrive pas d'un jour ou d'autre. Il faut avoir un peu de patience jusqu'à ça arrive, je pense. Ouais. Et si tu dis, ah, maintenant, aujourd'hui, je veux faire. Je roule seulement 100 km le week-end et maintenant je veux faire le Three Peaks. Je pense peut-être ça passe, mais tu as un gros risque de te blesser. Et je pense qu'il faut y penser que le corps c'est fascinant. C'est que tu peux faire et comment il peut s'adapter. Moi je vois avec les courses à pied, il faut être très patient. patient. Voilà. Mais il faut vraiment, il peut bien s'adapter, mais il faut attendre jusqu'à ça va mieux. Et parfois, c'est peu à peu. Hein.
Voilà. Donc, tu trouves que parfois, en tout cas peut-être les débutants, ont tendance à aller, expression typiquement française, un peu vite en besogne. Est-ce que tu la comprends, celle-là?
Oui, je pense, j'espère que je pense, j'ai compris. Je pense ça dépend vraiment de la personne, mais en tout cas, il faut entendre ce que ton corps il te dit. Si tu as un peu du mal, il faut arrêter et attendre quelques jours jusqu'à ce mieux. Mm. Tu vois, et ouais, voilà, c'est...
Donc, y aller petit à petit, un pas après l'autre, et être patient pour construire une solide base d'endurance.
Voilà. C'est exactement ça.
Non, mais je sais, le lien neuronal, il est là.
Ah oui. Oui, voilà.
Alors justement, est-ce que le sujet de ta thèse te sert dans ta pratique ultra à monter des stratégies et à raisonner de manière extrêmement, entre guillemets, logique, même si ça semble faire partie de ta personnalité, et de manière rationnelle, qui semble aussi est un petit peu une part de toi?
Oui, puis bien sûr, j'ai un ordi qui un ressort de neurones qui pense pour moi. Hein.
Non, mais ça, je sais. Mais tu sais quoi, t'es pas la seule.
Non,
Ulrich me l'avait déjà dit. Il m'avait dit, quand je roule, je regarde mon compteur, je regarde les watts, je regarde et je calcule en permanence la quantité de batterie qu'il me reste sur mes trucs pour savoir à quel moment je dois m'arrêter. Mais Ulrich, c'est un malade mental.
Je pense, en fait, être dans la recherche, être dans un domaine scientifique, ça m'aide à être ouvert à des nouvelles études, des nouvelles connaissances et peut-être aussi penser dans une manière, comment dire, raisonnable, je ne sais pas.
Raisonner.
Raisonner, voilà.
Ou rationnel.
Mais rationnel, voilà, rationnel, c'est le mot. Mais les numéros, quand je fais des vélos, je n'ai pas de capteur de puissance, je l'ai vendu. Si je fais des ultras, je ne regarde pas mon capteur de moniteur cardiaque. Et j'ai vraiment, quand je roule, j'essaie de percevoir ce que m'importe, comment je me sens. Et je n'aime pas trop regarder les numéros en fait. Mais voilà, c'est un peu contraire. Je pense que chaque personne a un peu une manière différente. Mais moi, je n'aime pas trop regarder les numéros. Voilà. Mais à la fin, parfois, quand j'ai fini une sortie, j'aime bien analyser ce que j'ai fait, tu vois. Mais pendant la sortie, pas trop, parce que par exemple, si tu regardes toujours ton moniteur cardiaque et un jour, c'est super, la fréquence, c'est super haut et un jour, pas, Et tu peux être, tu peux être, oh, je sais pas, quelque chose va pas bien. Et pour éviter ça, je regarde pas trop les humains robes, mais parfois, par exemple, je fais des photos de ce que je mange. Et après, je regarde, au total, ce que j'ai mangé, c'était assez. Voilà, parce que c'est intéressant pour moi. Et quand je roule, je fais intuitive. Mais après, j'aime bien un peu analyser. Voilà. Mais je fais pas trop, hein. Je ouais. pense qu'il y a les gens qui sont beaucoup plus intéressés dans ces numéros, des statistiques, mais voilà.
Bah, la fréquence cardiaque, de toute façon, c'est un énorme piège, parce que selon comment on a dormi, selon ce qu'on a mangé, comment la température qu'il fait, comment on est couvert, ça varie énormément et on peut être vraiment induit en erreur. Alors que les watts, les watts ne mentent pas. Oui. Et les watts, c'est vraiment l'indicateur de notre état de forme, alors que la fréquence cardiaque, elle va un petit peu dériver, et c'est pas hyper fiable. On y a beaucoup cru à une époque, mais en fait, les watts, c'est largement mieux.
Mais je pense aussi pendant une course, je sais pas si je veux savoir toutes les informations sur mes watts, parce que parfois tu n'arrives pas à voir les bons numéros.
Ah bah ouais, et des fois c'est la déprime.
Il faut rester calme quand même. Hein.
Ouais. Bah ouais.
Voilà. Et ça, pour ça qu'on s'apprend aussi connecter les senseurs, ça prend d'énergie. Et si tu fais un ultra, c'est hyper intéressant d'être efficace avec la batterie, l'autonomie.
Ouais, voilà. Complètement. Tu sais quoi, ça fait 25 minutes qu'on parle, 26. Et je trouve que depuis 26 minutes, excuse-moi de te le dire ainsi, mais je trouve que tu affiches une sérénité et une confiance presque insolente. Est-ce qu'il
insolente
t'arrive... Insolente, exactement. Voilà, insolente.
C'est quoi
comment je vais pouvoir dire ça, moi, en français, ne parlant absolument pas allemand. Alors, tu sais quoi, pour toi, Louisa, je vais traduire. J'ai posé mon micro et je vais traduire insolente en allemand. Voilà. Voilà, tout simplement. Parce que, merde.
J'ai pu aussi regarder,
Alors, allemand. Non, mais attends, ça, en plus, je vais apprendre un mot, tu te rends pas compte, c'est génial. Alors, insolente, ça se dit fraîche.
Ah oui, c'est bien. Pourquoi?
Eh ben, je sais pas. Mais en tout cas, fraîche, eh ben voilà, je te trouve bien fraîche.
Okay.
Donc, d'où cette question, Louisa Werner, tiens-toi bien. T'arrive-t-il de douter de tes capacités?
Si je doute de mes capacités,
ouais,
bien sûr.
Parce que j'ai l'impression qu'en fait, non. J'ai l'impression que quand tu as envie de faire un truc, tu y vas, tu te prépares. En conséquence, tu réfléchis, tu prépares, mais tu ne doutes pas. Tu ne doutes pas de tes capacités, d'où ma question. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Doutes-tu de tes capacités?
De temps en temps, oui, et je pense que c'est aussi normal. Et je pense que ça, c'est aussi important pour s'améliorer. Par exemple, je m'inscris pour un Ironman en août et je doute vraiment des capacités en course à pied. Mais au final, j'ai toujours envie d'essayer et après on voit et pas trop douter. Parce que douter, c'est quelque chose, je pense que c'est quelque chose, peut-être ça t'aide à réfléchir ce qui peut s'y passer, ce que tu veux pas et ça t'aide à te préparer. Mais douter, ça peut aussi inhiber de faire des choses. Mmh. Et moi, je préfère essayer, et si ça marche pas, ça marche pas. Mais rester à la maison et avoir des doutes, je pense, comme ça, tu n'avances pas. Voilà. Voilà. Mais bien sûr, j'ai souvent aussi les doutes. Hein. Parfois, c'est pas toujours. Je ne me sens pas chaque jour super forte. Parfois, je roule et j'ai pas de force, ou peut-être j'ai du mal, ou voilà, c'est pas toujours, c'est pas facile, hein.
Non, t'as raison, c'est pas tous les jours facile, en effet.
Voilà.
Revenons-en à l'Italie Divide.
Voilà.
Tu as fait ton hiver de ski, tu t'es remise à rouler. Comment tu t'es retrouvée dans ce délire de l'Italie Divide? Comment ça s'est passé?
Dans les délires. En fait, l'Italy Divide, je trouvais vraiment difficile. Je trouve encore plus difficile que le Three Peaks. Quand même, le Three Peaks a beaucoup, beaucoup plus de distance et de niveau. Mais l'Italy Divide, avant le départ d'Italy Divide, il a plu beaucoup. Alors, il y avait du boue partout. Et si tu regardes mes stories Instagram, parfois mon vélo s'était vraiment bloqué dans la boue. Et un jour, je suis avancée avec une moyenne de 11. Et voilà, la boue est partout. Parfois, il a plu. Et parfois, il était hyper chaud. Mais je pense que les conditions météo et partout la boue, c'était vraiment compliqué d'avancer. Et ça, c'était très mental. Et je suis beaucoup marché. Et voilà, comme ça, j'ai trouvé un peu dur. Oui, voilà. Et il y a aussi les gens qui ont pris un VTT. Et ouais. Je pense qu'il y avait les parties de la course où l'MBTT, c'est vraiment un bon choix. Mais je pense que quand c'est sec, ça passe super bien. Mais avec la boue, c'était tellement difficile. Voilà.
T'avais
et aussi quand j'ai dormi...
T'avais quoi comme vélo, là?
Canyon Gristle, c'est un vélo Gravel, ouais. Mais avec les pneus VTT. Et c'était un bon choix de prendre les pneus VTT. Mais aussi les nuits, j'ai vraiment froid, je pourrais pas bien dormir et je pense que ça a aussi pris beaucoup d'énergie. Aussi pendant les nuits, j'ai eu du faim parce que si tu roules pas sur la route mais sur les chemins, souvent il faut se déprier sur les chemins et on est concentré sur les chemins et on n'a pas du temps à manger. Alors je pense que j'ai aussi pas assez mangé. Et je pense vraiment pour l'Italy Divide et les crèves, ça peut être plus dur. Et en ce moment-là, il me manquait vraiment d'expérience pour faire attention à manger, à peut-être prendre un sacouchage plus chaud, voilà. Je pense... et aussi, j'ai dormi très irrégulièrement. Et je pense, à la fin, j'ai dormi assez, mais la qualité du sommeil, c'était pas bien. Et aussi, c'était pas dans une manière régulière. Alors, en tout cas, c'était Dubaï, tu te trouvais vraiment difficile. Hein. Voilà.
Alors, je peux donner un petit indice. La semaine prochaine, je refais un épisode avec Zoé Chauderlo, qui était également sur l'Italie Divide.
Avec qui?
Zoé Chauderlo.
Ah oui, elle est super forte.
Elle est géniale, Zoé. Elle est fantastique.
Oui, elle a eu des problèmes de respiration là. Mais oui, on a, je pense, en demi-jour, on a passé ensemble en parlant et voilà, je pense qu'elle a vraiment expérience et elle est super forte. Et surtout dans les courses Gravel et elle est vraiment impressionnante. Hein, voilà, c'est.
Ça a été un petit peu la découverte.
Pardon?
Oui, vas-y, excuse-moi, vas-y, finis, excuse-moi.
Emma a aussi appris quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Par exemple, quand c'est super raide, elle pousse son vélo. Et normalement, si tu fais vélo de route, si tu pousses ton vélo, tu es nul. Hein, voilà, mais ouais. Elle m'a montré, oh, regarde, moi je pousse mon vélo, je mange, je bois. Et regarde, le mec là-bas, elle n'avance pas. Beaucoup plus vite, hein. Mais moi, c'est bon pour mes genoux et c'est bon pour je peux manger. Et en fait, ça c'est une super bonne chose pour à faire. Par exemple aussi pendant le Stupix, parfois il était tellement raide et moi j'ai poussé mon vélo et en fait tu perds rien, mais tu économises ton énergie, hein. Tu économises la force de tes genoux et voilà, c'est pas une mauvaise idée, hein.
C'est une excellente idée.
Elle m'a dit. En fait, parfois, c'est tellement raide que tu ne peux plus rouler. Hein. Et si tu essayes de rouler, il y a des conséquences pour tes genoux. Voilà.
Ouais. Ah ouais, ah ouais. De pousser comme ça longtemps, très fort, c'est comme ça qu'on se fusille et qu'on dilapide une énergie considérable. Alors qu'au contraire, monter à pied, comme tu l'as très bien dit, bah, on monte. Et comme l'a très bien dit aussi Zoé, eh ben, on ne monte pas beaucoup moins vite. On monte à peine moins vite, voire même à la même vitesse. Sauf que pendant ce temps-là, eh ben, on peut reprendre son souffle, revenir à un état normal, alors qu'en poussant comme une bourrique, eh ben, on est toujours à deux doigts de l'explosion. Et là, on reprend son souffle, on peut manger, on peut boire, on peut éventuellement consulter son téléphone, faire des trucs utiles. Alors qu'en poussant comme un âne, eh ben, on se crame la tronche pour rien. Voilà.
Voilà. Donc
la gestion... L'intelligence et la gestion d'efforts par Zoé, je lui en reparlerai. Mais j'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine et de reparler avec Zoé.
Oui.
Parce qu'elle elle est fantastique.
Aussi avec les courses longues, je pense, elle a tellement, c'est vraiment autre chose de faire l'Italy Divide ou le Tour Divide. Aussi, ouais. Dans un état mental, il faut être très, très fort mentalement pour faire une épreuve comme ça. Hein. C'est, je trouve vraiment impressionnante. Hein. Je suis intéressante de quoi vous parlez, j'avais entendu, écouter. Hein. Voilà.
Ah bon, on va parler de plein de choses. Hein.
Oui.
Ça va être très. Non, mais en plus, on se connaît déjà un petit peu.
Oui.
On avait déjà fait un épisode il y a 3 ans. On a déjà calé un déjeuner pour septembre tous les deux. Donc, ça va être cool. Ça va être cool
voilà.
de voir Zoé encore. Donc, super, super.
Justement,
en parlant de, pas de lassitude, mais de mental, parfois, certains coureurs ou coureuses me disent... tant de jours, tant de kilomètres, c'est ma limite. Je peux pas faire plus. Moi, 1000 km, 1200, c'est ma limite, je peux pas faire plus. Ou au contraire, 4000, ça me va. Est-ce que toi, tu as l'impression que 2005, c'est déjà trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce qu'au bout de 2005, tu en avais vraiment jusque-là? Tu t'es senti comment à l'issue des 2005 de la FreePix?
Je pense... c'est difficile à dire. Je pense pas que je peux dire ah, je peux pas faire une course à 4000, c'est trop, mon corps peut pas. Je pense ça, c'est pas vrai. Mais je pense c'est un peu plus que de toi, est-ce que tu as envie?
Ouais.
Je pense les courses de 1000 km, c'est vraiment autre chose que le long course de ThreePeaks ou le RAF, le Race Across France 500. Mmh. Ils sont des épreuves différentes et il faut aussi adapter sa stratégie. Et je pense qu'il faut en réfléchir à ce qu'on aime bien faire. Je pense que sur les courses plus longues, peut-être tu dors un peu plus. Voilà. Et oui, je pense que ça, c'est la chose qui est intéressante. Mais je ne peux pas dire « Ah, je ne fais pas une course hyper longue ». Mais pour moi, en ce moment, je n'ai pas trop envie de faire une course de 4000, par exemple. Parce que je pense à... j'aime bien avoir un programme varié.
Ouais.
Et pour ça, il faut prendre beaucoup de jours fériés, congés pour le faire. Et ouais. Voilà. En ce moment, le ThreePeaks, c'est une semaine, je pense, peut-être 10 jours, une course de 10 jours. Ça, pour l'instant, ça me suffit. J'ai pas trop envie de faire 3 semaines de course. Voilà. C'est, pour l'instant, non, mais on sait jamais. Hein.
Donc, l'Italy Divide, t'as fait mal parce que globalement, t'as découvert un petit peu une nouvelle stratégie où t'étais un poil inexpérimenté sur la stratégie de sommeil et sur le pilotage dans la boue, etc. Comment tu as utilisé la RAF 500? Qu'est-ce que tu as expérimenté? Qu'est-ce que tu as travaillé sur la RAF 500? Parce que comme tu avais fait l'Italy Divide... il est évident que la RAF 500 était un gros entraînement, un gros bloc d'entraînement pour travailler certains aspects. Donc, quels aspects tu as travaillé sur la RAF?
En fait, j'ai choisi la RAF parce que c'était exactement deux semaines avant le départ de ThreePeaks. Et le finish à course, le kilomètre final de ThreePeaks, c'était presque pareil que le Race Across France.
Ouais.
Alors, je pensais que c'est une bonne occasion pour revoir la course, la trace, pour se préparer, mais aussi physiquement, de faire une longue sortie pour savoir un peu mes capacités, aussi pour voir peut-être si tu as du mal après 8000 km de nif, si tu as du mal au pied ou trucs comme ça. Juste pour aussi tester un peu mon équipement, mon corps, de quoi est-ce que je suis capable. Et je pense que c'était aussi une bonne occasion de tester dans une course. Parce que là, tu roules pendant la nuit, c'est un peu plus ouais. Sérieux, tu vois, que les sorties longues que tu fais toi-même.
Conditions réelles, voilà. Donc.
Voilà, je pense que ça, c'était une bonne occasion pour voir. Et j'ai aussi appris des trucs que j'ai appliqués pour le ThreePeaks et qui étaient beaucoup mieux pendant le ThreePeaks. Par exemple, pendant le Race Across France, à la fin, j'ai vraiment eu des problèmes respiratoires. Je pense que c'est à cause de déhydratation. Et je ne pourrais plus manger. J'ai bu, mais je ne pourrais pas bien respirer. Et ça m'a fait tellement mal. Et toutes les petites collines, je suis allée super lente pour éviter de souffler tout, alors trop. Alors, j'ai appris que pour le Slow Peaks, il faut vraiment faire attention à boire assez s'il fait chaud. Alors, pendant le Slow Peaks, à la fin, il faisait super chaud. Et mais moi, j'ai beaucoup bu et en fait, c'est bien passé. Hein. Mais c'était une expérience que j'ai fait pendant le Race Across France et je suis contente qu'il ne faudrait pas le faire pendant une course longue comme le Slow Peaks. Parce que ça m'a vraiment fait peur et voilà.
Et après, arrivé à la Free Peaks, comment tu es arrivé, dans quel état d'esprit? Tu voulais faire la première femme? Tu voulais être le plus haut possible dans le classement général? Dans quel état d'esprit tu t'es pointé à la Free Peaks?
En fait, je suis arrivée super stressée parce que je suis allée à l'aéroport et ils m'ont dit ah bon, vous êtes là, je vois la confirmation que votre vélo vous avez réservé, mais désolé hein, l'avion prend pas les vélos aujourd'hui. Et c'était d'accord. Tellement du stress, alors ils m'ont donné les autres vols et voilà, je suis arrivée super tard. Et après, quand je suis arrivée, mes freins, les freins de disque, il n'y avait pas une bonne pression, comment dire. Et voilà, il faut chercher un magasin des vélos et personne ne voulait m'aider. Et voilà, c'était un peu de stress. Et quand je suis arrivée, j'étais contente que je suis finalement là. Et je n'ai pas trop pensé au classement en général. Mais bien sûr, en fait, je pensais, ok, ce que je peux faire, c'est presque rouler 16 heures, 14 heures par jour, faire 5000 dénivelés par jour. Et si je fais ça, je pense que je vais être bien placée dans le classement général. Mais je n'ai pas trop pensé, il faut être plus vite que ces gens-là. J'ai plus pensé, c'est qu'il faut faire moi-même pour bien se placer et se concentrer à le faire et pas trop regarder ce que les autres font. Parce ouais. que si moi je fais ce que je peux, je vais arriver à être dans une bonne position. Et les autres, ils sont des variables, on ne sait jamais ce qu'ils font, je ne connais pas tout le monde. Je pense que ça ne sert à rien de trop regarder ce que les autres font. Ils ont des autres stratégies et ça peut seulement détruire mon rythme, je pense, si j'écoute trop ce que les autres font. Alors, je me concentre à moi et voilà.
Donc, tu as établi une petite stratégie, un plan de marche et tu t'es simplement contenté d'appliquer ton plan, de suivre ton plan de marche et d'attendre le résultat d'attendre la fin pour voir le résultat plutôt.
Voilà, c'est exactement ça. Parce ouais. que moi, je ne peux pas changer ce que les autres font. Parfois, il y a un niveau hyper haut, parfois, il n'y a pas trop de niveau. Ce n'est pas une chose que je peux contrôler, mais je peux seulement contrôler ce que je fais. Alors, je me concentre à ça.
Est-ce que tu trouves que ça aide, justement, de ne pas trop regarder ce que font les autres? Parce que c'est une autre, entre guillemets, erreur ou un petit défaut que l'on a quand on débute. C'est que par manque de repères ou par manque d'assurance, on a tendance à regarder ce que font les autres, comment ils sont équipés, comment ils sont habillés, comment oui. ils roulent, etc. Et de se dire « Ah merde, j'ai pas le bon guidon, j'ai pas la bonne selle, mon guidon, oui, mon cuissard il descend pas jusqu'au genou et tout, comment je vais faire ?» Et on oui, a voilà, tendance ça, souvent c'est... à se comparer et à se dire oh, « Putain, je vais jamais y arriver, je te promets, j'ai pas les bonnes couleurs de lunettes. »
Oui, voilà, c'est exactement ça.
Ah mais je sais, on me l'a déjà dit, puis on l'a tous fait de toute façon, moi, les autres, on a tous fait ça, on s'est tous voilà. comparé en se disant laisse tomber, c'est mort.
Aussi avec les traces, les gens m'ont dit ah le rando ça va prendre du temps, ça va être super dur, je fais pas le rando. Et moi je pense, si tu écoutes trop ce que les autres font, Si les autres sont des coureurs célèbres, ils n'ont pas toujours les meilleures stratégies, je pense. Ouais. Parfois, quand même, tu es débutante ou je ne sais pas, peut-être ce que tu fais, ça va être mieux à la fin. Et voilà, il y a aussi les gens qui disent, par exemple, après mes checkpoints, je pense que j'étais à position 30 ou comme ça environ. Et je pensais, oulala, les gens, ils sont hyper vite, hein, ils avancent, oulala, c'est... Mais à la fin, il y avait peu à peu, je les ai doublés. Il y avait beaucoup de gens qui ont dormi 1 heure dans la première nuit et après, ils ont des problèmes, ils ont plus avancé, ils étaient fatigués.
Ouais.
Et moi, j'ai dormi 4 heures. Au début, ça, bien sûr, ils sont plus vite. Mais au final, moi, j'arrive à les doubler et être dans un meilleur état. Et voilà, il ne faut pas trop regarder ce que les autres font, parce que chaque
Ouais.
personne est différente. Et je pense qu'il faut aussi bien se préparer et après avoir confiance dans sa préparation. Je pense que ça, c'est important.
Bah, il faut commencer par bien se préparer et savoir comment se préparer. C'est bien là le problème pour les débutants, c'est que comme on a affaire à une discipline émergente, le bikepacking, le gravel, tout ça, c'est très très nouveau. Enfin très très nouveau. En tout cas, ça fait pas si longtemps que ça que c'est super à la mode et que beaucoup veulent partir à l'aventure. Et bah, il y a quand même un petit déficit de préparation et du coup, bon, ça participe à l'expérience, c'est super, mais parfois l'expérience, elle est acquise un petit peu à la dure quand même.
Oui.
Et on voit pas mal d'accidents, de chutes bêtes, d'abandons qui sont dus à ça, quand même.
Oui. Oui, je pense qu'il faut aussi. Mais il y a beaucoup de gens qui écrivent des blogs, qui écrivent sur ces expériences. Mais aussi, il faut savoir ce que moi je peux soi-même. Par exemple, c'est pour ça aussi tout le monde a un setup trop différent. Il faut tester combien tu bois, comment tu mets tes sacoches. Je pense qu'il faut vraiment avoir la patience pour essayer et tester le truc et essayer tester aussi ton corps et pour apprendre ce que marche pour soi-même, hein. Voilà, et je pense que ça c'est important.
Bah, on en revient à la patience de tout à l'heure sur la progression physique. Tout l'aspect stratégique et matériel du bikepacking participe aussi au résultat final. Et si on cherche la recette magique, tu prends tel vélo, telle sacoche, tu fais comme machin et machine, et tu arriveras au bout, bah, ça marche pas parce que chaque coureur ou coureuse est différent et chaque configuration est différente. Et
Oui.
ça, c'est la partie à la fois gonflante, mais aussi fascinante de nos disciplines, quand même.
Voilà, c'est vrai, hein. Il y a beaucoup de
Merci.
composants pour être voilà, pour y arriver, hein. Il y a beaucoup de chances qui sont importantes.
Est-ce que tu trouves que t'as des jambes, évidemment, toi, t'as des jambes, t'as des capacités importantes, c'est super cool, mais est-ce que tu trouves que la stratégie, l'équipement, la préparation de ton matériel, le mental, c'est aussi, voire plus important que les jambes.
Je pense, moi personnellement, je pense peut-être autre gens, autre avis, mais moi je pense la force physique, c'est la base, c'est le plus important pour rouler vite dans les courses ultra. Mais si tu n'as pas une bonne stratégie, tu peux tout casser, je pense. Je pense que c'est ça. Par exemple, si tu es bien préparé, tu es super fort, tu as bien t'entraîné, mais tu arrives avec un vélo qui n'est pas dans un bon état. Tu vas pas arriver à montrer ta performance, hein. Je pense il y a tous les il faut bien sûr les gens je pense ça c'est le plus important, mais il faut aussi regarder les autres facteurs parce que voilà, ils sont aussi importants pour que tu peux y arriver. Voilà.
Alors revenons à la FreePix. Tu étais stressé, tu as réussi à prendre l'avion, le départ est donné. Comment tu as géré ton truc?
Gérer ton truc, ça veut dire quel truc?
Gérer ton effort, gérer ta course. Comment
Ah
tu as
oui.
vécu ton... ouais, désolé pour les expressions françaises, mais
Oui.
dans 2 ans, quand on fera un autre épisode, promis, j'aurai appris quelques expressions allemandes et je ferai comme dans... Tu sais, il y a un film que j'aime beaucoup de Wes Anderson, The Grand Budapest Hotel.
Ah oui,
Et
je connais pas en fait.
y a deux, trois répliques qui me font beaucoup rire, notamment, il était, par exemple, il était comme ci ou comme ça, ce qui en allemand se dit tatati tatata. Et du coup, j'essaierai de retrouver des... Donc, je t'incite à aller le voir, à le regarder. Je crois qu'il est sur Prime. Et c'est vraiment un super film. Et du coup, je te promets que lorsque l'on refera un épisode ensemble, je pourrai faire des blagues de ce style. Des blagues.
Ah oui, tu te prépares en allemand.
Je vais préparer mes expressions allemandes à l'avance.
Super.
Parce que même tu sais quoi, je vais te laisser un petit peu raconter ta FreePix, le déroulement, comment ça s'est passé. Et moi, pendant ce temps-là, je vais préparer mon coup avec une blague bien lourde avec une expression allemande.
Ok. Voilà. Oui, on peut revenir à la question. Au début,
exactement. Attention.
Au début, il y avait les coureurs qui sont allés super vite au début. Mais moi, j'ai essayé de profiter encore un peu de l'ambiance avec les autres coureurs, de parler, avoir des conversations et discuter un peu. Parce que pendant la course, tu vas être seul beaucoup de temps. Alors, j'ai profité un peu de cet esprit et je sais bien que je ne pense pas que dans la dernière jour, tu peux gagner la course. Alors, j'ai décidé d'être tranquille. Mais fais pas trop de pauses, mais quand même parler aux coureurs, voilà, et comme ça j'ai commencé, hein. Et j'ai essayé de être beaucoup dans mon, je mettre les, comment dire, aérobars, le truc pour les aérodynamiques.
Dans exactement, les plats, aérobar ou prolongateur en français.
Prolongateur, bien sûr. Et voilà, j'ai essayé d'être beaucoup dans le prolongateur pour être aérodynamique, pour être vite dans les plats, mais pas trop de stress le premier jour. Hein. Voilà. Arriver dans la course. Et aussi, le premier jour, je ne me sentais pas super bien. J'ai un peu mal à la tête, comment dire, mal à la tête, parce que je pense à cause du stress. Parce que si je suis stressée, parfois j'ai les douleurs dans la tête. Alors. J'ai essayé rouler tranquillement et voilà, profiter un peu de l'ambiance que c'est parti maintenant.
Donc tu as essayé d'avoir un début de course assez relax,
voilà.
Et d'avoir une approche plutôt épicurienne de la course.
Voilà.
Ce qui en allemand se dit Genussmenscht.
Genussmenscht.
Voilà. J'ai réussi à...
Oui, voilà.
Ça n'a pas été facile quand même.
Oui, mais j'ai appris, j'ai compris, hein.
Ah, voilà. Moi aussi, je suis super content. J'ai appris un mot en allemand. Y a les chances que j'arrive à m'en... Bah, quoique si, je vais sur la Costa Brava la semaine prochaine et on sait tous que c'est blindé d'allemand là-bas. Donc
ah,
peut-être
oui.
Que j'arriverai à le dire.
Les Allemands, voilà. Ils sont pas tout à la blanche, hein, les Allemands.
Bah non, ils sont aussi un petit peu à Majorque.
Voilà, c'est voilà. Exactement
bon,
ça.
C'est parfait. Moi, ça me convient parfaitement. Et donc ensuite, quand tu as eu fini de savourer l'ambiance, de discuter avec tout le monde, à quel moment tu as un petit peu enclenché pour faire un bon résultat?
Le premier jour, le deuxième jour, c'était le checkpoint 1, les trichimes de Lavaredo. Là, je suis encore roulée, mais toujours j'ai essayé de rouler efficace. Ça veut dire que je fais des pauses... stratégique, si je m'arrête, j'achète beaucoup de bouffe, je fais tout ce qu'il faut faire quand je m'arrête pour pas s'arrêter trop.
Ouais.
J'ai toujours fait ça et fait des pauses qualitatives. Voilà. Mais oui, jour 2, j'ai déjà commencé d'être un peu plus concentrée peut-être. Mais voilà, c'est... Je pense au total, c'était... On pense que c'est une course, c'est hyper sérieux. Mais je pense, moi, la meilleure performance, je vais arriver si la plupart... Pour moi, j'essaie de garder la bonne humeur toute la course, parce que si j'y arrive, ouais. Je vais rouler vite. Tu vois? Si je suis fatiguée, si je suis énervée, si j'ai faim, si je n'ai plus envie de rouler, je peux essayer de l'enforcer, mais à la fin, ça va être pas vite. Hein. Mais si je suis de bonne humeur, si j'aime bien rouler, si j'aime bien les paysages, je roule vite, alors j'essaye de garder mon humeur et ça veut dire que je mange assez, si j'ai envie de faire une pause, et je pense que c'est vraiment important de faire une pause maintenant, je fais une petite pause. Et vraiment prendre soin de moi parce que si je suis contente, je roule bien. Et comme ça, à la fin, je pense, bien sûr, il y avait les moments pendant la course, par exemple à la fin, à Montagne de Lure, je me sentais vraiment fatiguée, j'ai plus eu envie de rouler. Parfois, il faisait hyper chaud et voilà. Bien sûr, il y a les moments comme ça, mais je pense qu'il faut en avant les éviter et pour rester en bonne humeur parce que comme ça, je roule plus vite. Ça, c'est aussi pour ça.
La montagne de Lure, vous l'avez...
Les premières nuits, j'ai dormi 4 heures ou 5 heures. Je pense pas beaucoup de personnes ont dormi tellement long que moi. Mais moi, j'ai eu l'impression, quand je roule, je suis vraiment énergétique, je suis de bonne humeur et je motive aussi les autres sur la route. Et voilà, ils roulent plus vite. Et voilà. Pour ça, seulement la dernière nuit, j'ai réduit mon sommeil beaucoup. Mais pendant, pense, 4 heures, 5 heures, ça, c'était la base pour bien rouler pendant la journée.
Ouais. Voilà. Donc toi, tu fais partie un petit peu, parce que souvent, bon, on en parle souvent dans les épisodes, il y a plusieurs, entre guillemets, plusieurs écoles. L'école française qui est de rouler lentement et de s'arrêter très peu, et à l'opposé, la méthode germanique ou nordique de rouler vite et de s'arrêter beaucoup plus longtemps. Toi, tu sembles être vraiment dans la méthode, l'école germanique, à rouler vite, mais à t'arrêter 3, 4 heures, peut-être même plus. Et pour bien récupérer et rouler vite. Et il s'avère que ça peut être une très bonne méthode aussi, sous-estime peut-être. Ça fonctionne pour toi, en tout cas.
En fait, je ne veux pas dire que je serais plus vite de faire autrement, mais en fait, l'autre, ce n'est pas la manière comment je vais rouler. Parce que moi, je pense, pour moi, ce n'est pas une discipline de réduire le sommeil, c'est encore une discipline de vélo. Je vais rouler, je ne vais pas être comme un zombie sur leur rue et être fatigué. Mmh. Je vais rouler. Hein? Alors, c'est pour ça que je choisis cette manière de le faire. Peut-être l'autre, c'est plus vite à la fin, mais pour ça, je ne profite plus. Et aussi, bien sûr, c'est une course, mais pour moi, c'est aussi un événement où je vois des beaux paysages, je voyage. Et ça, c'est aussi un aspect important pour moi personnellement, que je veux garder. Hein? Tu vois, alors c'est pour ça. Ça, c'est, pour moi, ça marche mieux au total.
Ouais, donc tu veux être aussi en bonne forme sur le vélo et pas comme tu dis, pas comme un zombie, voilà, à ne pas voir ce que tu fais, à ne rien voir du paysage. C'est une course, mais tu veux aussi profiter du voyage.
Voilà, c'est ça. Et je pense que si tu es fatigué, être fatigué et pas dormir, c'est un truc qu'on fait pour torture. C'est pour torturer les gens dans le... prison, on dit le prison.
Ouais.
Voilà, c'est un truc comme ça. Et je pense que si tu es hyper fatigué, tu commences aussi à faire les décisions un peu pas bien. Et par exemple, j'ai vu un mec qui a oublié son casque là-haut sur un col. Alors il faudrait remonter et chercher le casque. Et ça, c'est les choses, ce qui se passe si tu ne dors pas. Je pense aussi, dans 4 heures de sommeil, tu as encore vraiment la chance de faire des trucs régénératifs pour les muscles, aussi éviter les blessures, voilà, faire un peu de digestion. Je pense que ça, c'est le sommeil, c'est pas le temps perdu, hein, dans mon avis. Hein. Ça t'aide à être plus stable et plus vite. Peut-être pour une course plus courte, cette stratégie marche pas. Par exemple, pendant Race Across France, je n'ai pas du tout dormi. Mais je pense si on fait... Je sais pas, 30 heures ou 27 heures, je pense que je peux encore faire sans sommeil.
Ouais.
Mais les courses plus longues, c'est vraiment une stratégie de pacing avec le sommeil. Hein. Voilà.
Tenir, gérer son allure et dormir suffisamment. Ouais.
Mais moi, j'ai trouvé très intéressant, je ne sais pas si organisateur le font, mais de regarder, analyser les trackers, le tracking. Et voir combien de pauses les gens ont fait et aussi avoir des informations des gens, combien d'heures ils ont dormi. Par exemple, moi, je sais bien que j'ai dormi 25 heures. Je trouve très intéressant comment les autres y font. Ça, je trouverais super intéressant. Peut-être on peut avoir des informations. Hein. Je pense que c'est tout dans le tracking. Hein.
Ça viendra certainement parce qu'on est au tout début, on est vraiment au début de la grande popularité du bikepacking. Mm-hmm. Et il y a un énorme manque d'études scientifiques. Alors, il y en a plein sur l'Ultra Trail.
Oui.
Tu vois, sur l'UTMB, il y a eu plein de trucs qui ont été faits sur la fatigue, sur la gestion de la fatigue.
Oui.
Sur la gestion de l'allure, la différence entre hommes et femmes.
Oui.
Justement, et ça, c'est hyper intéressant. Oui. Comment on en revient à la notion de confiance et de soi sous-évaluer ses capacités et de gérer à outrance. Ou au contraire d'être totalement hors limite et de rien gérer et de finir explosé.
Voilà.
Et des études comme ça, on n'en a pas encore à vélo et encore moins en ultra.
Oui.
Parce que, bah, en plus, ouais, en tout cas en France, quoi. Donc ça viendra certainement.
Oui.
Et puis peut-être aussi une utilisation un petit peu plus massive des data.
Oui, justement. Voilà, il y a beaucoup. Moi, je suis intéressée, je suis informaticienne. Hein.
Voilà. Les geeks sont de sortie, attention. c'est sûr que l'utilisation des data,
oui.
On le voit en cyclisme sur route et leur utilisation chez les pros, c'est hyper intéressant et justement de donner un petit peu une moyenne par niveau, tu vois, par niveau de, entre guillemets, de compétences, de niveau dans le classement,
oui.
De dire, bah voilà, peut-être que les 5 premiers, en moyenne, ils dorment une heure et demie par jour.
Oui.
Et quand tu commences à arriver vers la 5e place, 10e place, 15e place, comment évolue le temps de sommeil,
oui.
Comment évalue les temps d'arrêt. Et ça pourrait être hyper intéressant, justement, comme données pour les débutants, ceux qui veulent se lancer pour savoir quoi faire.
Oui.
Et ne pas avoir à vouloir faire comme les champions.
Oui.
Et d'avoir un vrai repère en fonction de son niveau ou de ses aspirations.
Oui.
Ça serait super, en effet.
Oui, je suis d'accord.
Ouais. Louisa,
oui.
Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter ? Si. Parce que je crois que tu as un superbe vélo, un Cervélo...
Caledonia.
Caledonia, moi j'allais dire révolutionnaire, mais non, c'est Caledonia, beaucoup moins classe. Mais Caledonia, si tu me parlais un petit peu de ton matériel, parce que je crois qu'il est très très beau ton vélo.
Bon, mais c'est le vélo de ma mère, hein.
Ah, mais bien sûr.
C'est le vélo de ma mère.
Mais bien sûr, non,
ma
mais
mère,
alors,
hein, mais ma vraiment, mère, elle est
non,
super.
Vraiment, j'aurais tout vu.
Moi, je...
Louisa, 159 épisodes, c'est la première fois qu'on me dit, moi, mon vélo, c'est le vélo de ma mère.
Oui,
franchement.
Ma mère, elle est super sportive. Non, en fait, elle a deux vélos et elle savait pas ce qu'elle veut faire avec cela. Et pour l'instant, elle voulait les garder et elle m'a laissé. Et c'était un vélo de route. Ouais. En fait, j'ai mis les prolongateurs Decathlon pour la position aérodynamique. Je pense que ça pourrait être plus léger, mais pour l'instant, ça va.
Carrément, ouais.
Voilà. Ça y a un DI2, Shimano DI2,
DI2. Ouais, c'est un Shimano DI2. Bah, voilà. Tu sais quoi, je vais retourner sur ton Instagram, parce que j'ai vu ça tout à l'heure en fait. Hein, tu sais, j'ai l'air comme ça, mais je me suis beaucoup documenté sur ton compte. Donc je vais aller voir, parce que je me souviens qu'il y a une photo de ton vélo.
Oui.
Donc je vais aller voir de suite. Alors comment tu t'appelles déjà ? Voilà, Louisa. Et on va revenir, tac, tac, tac. Donc, c'était cette photo, je crois. Voilà. Il est vraiment, vraiment super beau. Sacoche short lib. Voilà.
Oui.
Putain, mais c'est combien que tu as en plateau à l'avant ? C'est un 52 ?
En avant, c'est 50, je pense.
50 ?
C'est pas 52, 50. Et le petit, c'est 34.
Ouais,
voilà.
Ouais, c'est un compact 50-34. Voilà. D'accord.
Oui, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut aussi dire sur le setup ? Oui, des deux. Les rouges, je fais moi-même, hein, avec les pares chinois.
T'as fait tes roues toi-même avec,
oui.
des Donc, attends, Louisa, on se calme. Tu as commandé des jantes en Chine et des moyeux,
voilà.
Et tu as monté tes roues toi-même.
Oui.
C'est ce que tu es en train de me dire ?
Oui.
Les rayons et tout, tu as fait ça toi-même ?
Oui, mais il y avait mon copain et il sait bien comment faire. Mais,
mais
un jour, mais je fais moi-même. Hein. Il m'a guidé.
Non, mais il n'y a pas de problème.
Mais
un jour,
un jour, il faudrait envoyer, je sais pas, 200 euros pour les roues, comment dire, les noirs, les roues. Pour ça, il faudrait envoyer... beaucoup d'agents sur PayPal, Family and Friends, pour un Chinois gentil. En ce moment-là, j'ai eu un peu peur, hein, parce que tu n'as pas d'assurance, tu n'as rien. Et quand les roues sont arrivées, à la fin, j'étais super contente. Mais j'ai fait avec une autre copine, les deux, on a fait les roues ensemble et il nous a expliqué. Et à la fin, on a aussi appris beaucoup sur les roues. Et oui, c'était cool, hein. Je suis fière de rouler sur les roues, ce que je fais moi-même. Et au total, comme je suis doctorante, je n'ai pas beaucoup d'argent pour acheter des roues super légères, super aérodynamiques. Mmh. Alors maintenant, j'ai des roues de bonne qualité, j'espère, avec un prix raisonnable et je suis super contente. Hein. Voilà.
Et alors, tu sais quoi là? Ah, pardon, oui. Pardon. Non, vas-y.
Non, je pense c'est qu'il y a aussi sur mon vélo, mais si tu as des questions sur les roues, tu peux. C'est le moment là.
Non, mais là, je vais attaquer la séquence Je suis un feignant. Donc je vais simplement reprendre les questions qu'on t'a posées et que tu as mises sur ton compte Instagram en stories. Donc par exemple, quel équipement as-tu utilisé pour le dodo? Matelas,
ah oui.
Bivy, qu'est-ce que tu as utilisé? Ah non, mais là, tu vois, je vais même pas me forcer. Je suis sur ton compte Instagram et je vais défiler les stories. Voilà.
Ok, oui, j'ai pris le Thermarest Neo Air X-Lite. C'est insulated, voilà.
Isolé,
voilà. Pour cette course, j'en ai pas besoin, mais quand même, c'est super léger, alors je l'ai pris et je trouve confortable aussi. Mais pour le sacouchage, j'ai un sacouchage Sea to Summit pour une température confort de 6 degrés. Et ça, c'est super petit. C'est la doudoune aussi. Et je pense que Sea to Summit Flame 1, je pense. Mais j'ai écrit sur Instagram en détail. Voilà, et c'est tout. Hein. Je n'ai pas pris de bivy parce que je pensais il faut chercher les endroits qui sont protégés, alors je n'ai pas besoin de bivy. Voilà, et c'est tout hein, pour le dodo.
Ouais. Ah ouais, on a le même matelas Thermarest.
Ah oui.
Alors, quel vélo as-tu utilisé? Ça, on l'a dit, c'est un Cervélo Caledonia, magnifique, le vélo de ta mère donc.
Oui.
Et quel était tes développements? Donc à l'avant, tu m'as dit, en fait, tu n'as rien changé. Tu as un compact à l'avant et un 11-34, donc 50-34 et 11-28 ou 11-30-32 à l'arrière. Un truc comme ça.
Oui, 30-32 et l'autre, je ne sais pas, le petit, je ne sais pas, mais 32.
Ouais.
Voilà.
D'accord.
Oui, il y avait les gens avec des transmissions plus faciles, encore plus faciles.
Ah ben j'ai retrouvé la story où tu as mis ton vélo complet, donc Cervélo Caledonia avec en Shimano DI2 évidemment. T'aimes bien l'électrique? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore, malgré que ça ait une dizaine ou une quinzaine d'années, il y a encore plein de gens qui sont réticents avec ça sur l'ultra. T'aimes bien l'électrique?
En fait, j'ai pas choisi l'électrique soi-même. L'électrique c'était sur le vélo, alors je l'ai pris. Mais si j'achète un vélo moi-même, je pense, pour moi personnellement, ça serait trop cher. Et si je pense que c'est confortable parce que les câbles, comment dire, les câbles à l'intérieur, il n'y a pas de câbles, alors il n'y a pas de câbles qui peuvent être cassés. Pendant toute la course, ça marche très bien. Mais je sais pas. En fait, je sais pas si je l'achèterais. Mais en ce moment, c'est super confortable. Mais il faut d'abord savoir un peu quel câble va où et comment est-ce que c'est connecté. Et aussi, par exemple, pour l'avion, il y a une règle qu'il ne faut pas mettre les batteries dans le corps de l'aviron. Alors, je pris le sel avec moi dans là-haut, dans l'avion.
Ouais.
Et voilà, je pense qu'il y a des trucs au début qui sont un peu plus compliqués, où il faut s'y habituer, où il faut en penser, mais à la fin, ça marche bien. Voilà.
Les pneus, tu as des Continental GP5000. Et étonnamment, tu es en 28 derrière et... attends. Non, parce que du coup, j'ai un truc sur la story. J'ai pas toute la... Non. Ouais, t'es en 32 à l'arrière et 25 à l'avant.
Non, pas 32. 28 à l'arrière. Continental,
ah oui, 28,
Continental,
ouais.
Non, c'est que
j'ai une fenêtre devant. Et donc, ouais, t'es en 28 derrière et 25 à l'avant. Pourquoi un choix différencié? D'accord, c'est parce que ta mère avait mis ça sur ton vélo, très bien.
Non, en fait, c'est super facile parce que les pneus 5000, Continental 5000, ils sont super chers. Et l'un ouais. était encore bien et l'autre pas. Alors, j'ai décidé de mettre le 5000 à l'arrière parce que c'est un super pneu aussi. À l'arrière, tu as le bagage. Peut-être que c'est bien d'avoir le pneu un peu plus gros pour avoir plus ouais. de confort. Mais au final, c'était un choix d'économiser l'argent. Hein. Et au devant, j'ai mis le pneu Continental Grand Prix qui sont moins
D'accord.
chers.
Juste une observation, ta sacoche de cadre,
oui.
Elle n'irait pas jusqu'au bout de la douille de direction ou est-ce que justement tu l'as poussée vers l'arrière pour pouvoir loger ton bidon sur le tube diagonal?
En D'accord. fait, j'en ai pas trop.
Tu l'as
trouvé
comme ça sur ton vélo grâce à ta mère aussi, c'est ça?
Patrick, on peut changer la position, mais je pense au l'avant c'est trop grand pour mettre les trucs pour le mettre. Alors j'aime aussi bien cette sacoche parce que quand je fais les randonnées, je peux juste enlever la fixation après et mettre là-haut pour que je ouais. peux porter mon vélo là sur l'épaule.
Et
si tu as les grosses sacoches dans les quatre, et tu peux plus porter dans le vélo. C'est, ouais. c'est vraiment une bonne idée d'avoir le 4 pour mettre sur l'épaule pendant D'accord. cette randonnée.
En plus, j'ai cru voir des photos sur la FreePix. Il y avait des gros poussages, même des gros portages dans les rochers quand même.
Oui, mais il ne faut pas le faire. Moi, j'ai choisi. J'aime bien le rando.
D'accord. Donc toi, le hike bike extrême, c'est ton truc.
Oui, voilà. En fait, il y avait plusieurs choses à qui je pensais quand j'ai décidé de faire le rando. Là, si tu roules toute la journée, peut-être tu as des blessures, tu n'as plus la position, tu veux autre chose pour ton corps. Alors, je pensais que c'est une bonne variation pour mon corps, voilà. Et aussi, j'aime bien les paysages là, dans les zones protégées naturelles. Hein.
Ouais.
Et voilà. En fait, les randos, c'était plus vite encore, oui. Et j'ai eu beaucoup de... Je fais beaucoup de recherches sur les randonnées. Je me suis bien préparée. Et j'étais vraiment sûre que ça va être plus vite. J'ai vu les activités des autres coureurs qui ont fait le bikepacking là. Nathalie Bayon, par exemple. Ou des blogs, des vidéos. J'ai vraiment tout préparé pour bien savoir le rando, ce que ça va passer.
J'en déduis que tu es en pédale SPD. Évidemment, chaussures et pédales SPD.
Non, je suis en VTT.
Oui, pédale VTT.
Ah,
ouais.
c'est SPD, ouais, ouais, oui. C'est ouais. look SPD, oui. J'ai pris des chaussures VTT.
Donc, tu as des chaussures de VTT sur des pédales look X-Track.
Voilà, je pense. Je ne suis pas 100% sûr sur des pédales, mais look, c'est look.
Eh ben, très bien. Alors, attends, j'avance un petit peu. Tac, tac, tac. Donc, est-ce que tu avais prévu chaque jour à l'avance? Est-ce que tu avais un plan? Bah, tu nous as répondu tout à l'heure. Et oui, voilà, la story d'il y a 3 heures où on te voit porter ton vélo entre le CP2 et le CP3. Effectivement, comme tu dis, comme tu écris, c'était pas obligatoire, mais ça rendait la trace beaucoup plus courte.
Oui, oui. Donc, en fait, c'était une bonne décision, ça.
Alors, comment tu t'es débrouillé avec la nourriture et l'alimentation en général pendant la course?
En fait, Justinas Valaikas qui a gagné, il a dit il suit le seafood diet. Mais seafood, c'est pas écrit comme les poissons, mais comme voir si, ouais. avec deux E. Ça veut dire il mange tout ce qu'il voit.
D'accord.
seafood, eat food.
Ouais.
Et alors, moi, j'ai aussi essayé de manger assez, toujours avoir assez de bouffe avec moi pour me préparer s'il y a une section où il n'y a pas de bouffe à acheter. Alors, j'ai toujours pris assez dans mes sacoches. J'ai mangé des haribots, des fruits. Parfois, j'étais aussi dans un resto pour manger une pizza, pour 20 minutes, 30 minutes, petite pause,
ouais.
manger une pizza, manger des pâtes. J'ai aussi bu beaucoup de boissons sucrées. J'ai mangé dans des boulangeries. En fait, j'aime bien suivre, j'aime pas bien manger les gels, les trucs pour le sport, les trucs
Ouais.
spéciaux. Moi, j'aime
C'est du
bien
bio, ouais.
manger de quoi j'ai envie, parce que je pense mon corps, il me dit ce qu'il faut manger. Et voilà. Et à la fin, j'ai vraiment essayé de boire assez et prendre aussi les électrolytes, parce que s'il fait hyper chaud, tu transpires beaucoup et voilà.
Ouais. Comment tu t'es entraîné à dormir, enfin, comment tu t'es entraîné au manque de sommeil?
Je sais pas si on peut y entraîner. Je sais pas si ça marche. J'ai un peu
Ouais.
l'impression que tout le monde.
Je ne crois pas qu'on s'y entraîne. J'ai l'impression que c'est plutôt un niveau de motivation
Oui.
et de se dire non, je dormirai pas ou je recule au maximum. Mais je ne crois pas qu'il y ait d'adaptation.
Oui, je pense pas
Comme
il
il y
y
a
a
une
une
adaptation
adaptation que.
musculaire, il n'y a pas d'adaptation au
Oui,
sommeil.
je pense.
Sinon, ça se serait depuis longtemps.
Oui. Alors moi, j'ai vraiment essayé de. Bien sûr, pendant la course, le moment va venir quand tu es super fatigué et tu veux plus rouler et tu veux dormir et tu dis non, je continue encore un peu ou comme ça. Mais mon idée, c'était vraiment de avoir ces moments le plus tard que possible. Alors en avant avoir un rythme avec le sommeil, avoir bonne qualité le sommeil. C'est aussi pour ça que je prends une matelas et ça couchage. Il y a aussi les gens qui prennent pas. Et garder le rythme et pour avoir ces moments le plus tard que possible. Voilà. Et éviter le manque de sommeil. Voilà.
Alors, question étonnante, combien de cuissards et lesquels as-tu emmené? Alors, est-ce que tu avais emmené plusieurs cuissards?
Oui, en fait, j'ai pris deux parce que si il pleut beaucoup et c'est super mouillé, je pense que ça risque d'avoir des blessures.
Ouais.
Alors, j'ai pris deux et je prends les ASOS Long Distance Uma GTV qui sont super bien. Après, j'ai eu un abcès il y a une année. Dernière année, j'ai eu un abcès et après, j'ai vraiment pensé à des cuissards et avec ça marche super bien. Mais je pense au final, un cuissard, ça aurait suffi. Hein.
Ouais.
Parce qu'il n'a pas plu. Bien sûr, la hygiène, c'est pas super bien à la fin, mais quand même, j'ai essayé de désinfecter un peu et voilà, ça marche bien.
D'accord. Alors tes plans pour l'avenir, eh ben, un Ironman au mois d'août.
Oui.
Où ça l'Ironman?
Un point en
En
France?
brun?
Oui, voilà.
Ouais.
On verra ce que ça donne. Voilà, je suis en train de m'entraîner un peu en course à pied.
Ouais.
Mais bon, je sais pas, je pense que je suis pas. Le marathon, c'est long, hein. C'est long, on verra. On verra. Oui, et
Ah,
après.
ça va bien se passer. C'est que 42 km, c'est qu'une journée, hein.
Oui,
T'es
mais.
habitué à faire des trucs sur plusieurs jours, là c'est qu'une grosse journée, donc
Oui, mais
bon.
course à pied, tu as toujours un gros risque de te blesser. Mais moi, je
Ah,
me
ça.
dis, je vais essayer, et si j'arrive, c'est bien, mais si je n'arrive pas, je sais, prochaine année. Voilà, il faut voir, hein? Il faut voir. Voilà, et après, je fais aussi, en août, je vais faire un bikepacking avec une copine, chaque année, je fais un bikepacking avec eux. Et c'est toujours en gravel et on va être sur le chemin de Torino-Nice Rally. Mais c'est pas une course, c'est juste pour plaisir, les photos, le camping, la tente, faire la cuisine. Et voilà. Et après, je fais Badlands. Et après, je fais ski. Je fais ski.
Rendez-vous le 5 septembre à Granada.
Voilà. J'espère que cette fois, je vais bien arriver sans des problèmes de l'avion et tout ça.
Ouais, t'inquiète pas pour ça. Comment tu as géré toute la partie électrique, éclairage, recharge de ton téléphone, recharge de ton GPS?
En fait, mon GPS, c'est le Garmin 530, ça et mon portable, c'est un Google Pixel. Les deux ont déjà une bonne autonomie et je pense que ça aide beaucoup. Supplémentaire, j'ai pris une power bank Anker 20 000
Ouais.
tu sais.
Milliampères.
Voilà, c'est ça. Et ce que j'aime beaucoup et ce que je pense que c'est très important, c'est un chargeur. Avec trois, quatre ports, quatre connexions qui charge ouais. super vite. Ça veut dire que chaque fois que j'entre une boulangerie et je dis « Ok, maintenant, j'y reste 20 minutes pour boire un café, pour me reposer un petit peu », je mets dans la prise et je charge tous les trucs sur les quatre connexions.
Ouais.
Et je pense que ça aide beaucoup. Et pour les frontales, j'ai aussi une solution AliExpress, mais qui marche super bien.
Il y a des très bonnes choses sur Ali. Hein.
Oui, c'est en fait.
Enfin, il faut pas se moquer de nos amis chinois parce qu'ils font des très bons trucs quand même.
Oui, c'est sympa les lampes plus les moins chères. Et ils coûtent 30 € ou 40 €, mais ils sont hyper bien. Ils sont résistants à l'eau et oui voilà et ça une bonne autonomie. Et en fait, je l'utilise le cellule batterie pour mettre là dedans. Et si je finis, je prends un autre. Et les cellules, soi-même, je peux aussi utiliser comme power bank pour charger les autres trucs. Par exemple, si j'ai assez des cellules qui sont chargées pour mes frontales, je peux aussi les utiliser pour mon portable. Tu vois, alors c'est une solution qui donne beaucoup de flexibilité et ça marche bien. Et voilà, je suis contente.
Et dis donc Louisa, depuis un moment, moi j'étais sur ton compte Instagram, donc je ne voyais plus ta caméra. Tu es dans le noir.
Ah oui, je suis dans le noir. Attends.
Ouais,
voilà.
Donc, comme dit.
Oui, c'est la nuit, hein. C'est la nuit.
Ah ben oui, c'est la nuit. Donc et en plus, on va se quitter dans un instant parce que ça y est, on a fait le tour. Donc Louisa, eh ben bravo. Merci, je vais également en profiter pour te féliciter pour ton français parce que plusieurs fois, alors je n'ai pas compté, mais je pense qu'on est aux alentours de 27 fois où tu m'as dit « j'espère que mon français sera suffisant ». Donc ça t'a prouvé que oui, c'était le cas, c'était
parfait, merci.
Proche de la perfection en tout cas, donc bravo.
Merci beaucoup.
Je vais te laisser pour la minute de solitude et si tu n'es pas habitué à cette fourberie, eh bien c'est très simple. Je vais couper mon micro, couper ma caméra. Toi, tu restes face à ton ordinateur et tu dis ce que tu veux. Voilà. Mais quand tu as fini, tu te lèves de ta chaise et tu t'en vas. Et tu ne fermes pas ton ordinateur, tu ne fermes pas ton anglais. Tu ne fermes pas Chrome.
Alors ça veut dire, maintenant, je prête une minute, c'est ce que je veux.
Ouais, tu fais. Alors ça peut être une minute ou plus, mais tu fais un monologue. Voilà.
Okay.
Et tu peux même.
Oulala,
et tu sais quoi? Tu sais quoi? Quand j'ai quelqu'un d'un autre pays, eh ben, je lui demande de le dire en anglais. C'est complètement con ce que je viens de dire.
Ok, monologue en anglais?
Non, en allemand. Tu vois, quand j'ai fait un épisode avec Omar Di Felice, sa minute de solitude, il l'a faite en italien. Eh ben, toi, j'aimerais bien que tu la fasses en allemand. Parce que franchement, je vais rien comprendre, et, bon, à moins d'être germanophone. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'aimerais bien avoir une minute de solitude en allemand.
Ok, en allemand. Ok, je fais en allemand et après, voilà. je laisse tout ouvert et je disparais. Ou...
Exactement. Et après, tu te casses. Voilà.
Tout je me casse. Ça veut dire quoi?
Oui, tu t'en vas.
Ok.
You go away.
Ok. Et après, voilà. Tu vas recommencer à dire quelque chose ou?
Après, on peut rediscuter un petit peu. Après, si tu
après, là, oui, ça finit la comment dire?
Exactement. Okay. Quand j'ai fini, quand tu as fini ta minute de solitude, je coupe l'enregistrement et on se reparle un tout petit peu.
D'accord? Ok. Alors
allez,
ça commence?
À tout de suite. Ouais. Attends.
Okay, dann auf Deutsch. ja, ich glaube, es gibt eine Sache, die ich gerne weitergeben würde an andere, und zwar kenne ich viele Leute, die sagen, oh, ich würde das so gerne mal machen, Bikepacking und auch so ein Rennen mal fahren, das einfach mal probieren. Aber ich traue mir das nicht zu und ich weiß nicht, ob ich das kann und so weiter. Und das höre ich immer wieder. Und eine Sache, die ich da loswerden möchte, dass ich wirklich alle dazu motivieren möchte, es einfach mal zu probieren und nicht zu viel zu zweifeln und einfach mal sich anzumelden. Und wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht, aber das dann nicht als Scheitern zu sehen, sondern der Weg ist das Ziel und einfach mal sich anmelden und ausprobieren und ich glaube, das ist immer besser als zu Hause zu sitzen und zu überlegen, ich will das auch machen und es sind wirklich tolle Erfahrungen, die man macht, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, und auch die Formate sind von solchen Rennen, finde ich ganz speziell, wenn man dann auch viele andere trifft und das Gefühl hat, gemeinsam sich eine Herausforderung zu stellen. Und ich, es gibt wenige Momente, wo immer die Tränen kommen, aber sowohl beim Italy Divide als auch beim Three Peaks Bike Race, als ich ins Ziel gefahren bin, da wurde ich schon ein bisschen emotional, weil ich das so rührend finde, wenn man dann sowas geschafft hat. Und es ist eine Erfahrung, die ich ziemlich einzigartig finde und die ich jedem wünsche. Und deswegen, ja, ich kann nur alle dazu motivieren, sich mal der Herausforderung zu stellen und es einfach mal auszuprobieren, wenn man Lust hat, und sich nicht von seinen Zweifeln und Ängsten zu Hause einsperren zu lassen. Danke. Voilà.
Alors tu vois, hey, tout sauf pas, Louisa revient là, vite.
Oui.
Ah merde, c'est barré, laisse tomber. Et tu vois, Louisa, souvent, nous, Français, on dit ouais, l'espagnol, l'italien, c'est proche, c'est des langues latines, on comprend hyper bien. Quand tu vas en Espagne, il n'y a pas forcément besoin de comprendre ce qui a été dit. Et ben, je crois bien que c'est exactement pareil avec l'espagnol, avec l'allemand. J'ai compris tout ce que tu as dit.
Ah oui?
À la perfection. Ah ouais, mais grave, trop facile. Le bikepacking, c'est super bien. Moi, j'adore ça. J'adore faire du vélo. Et j'ai pris énormément de plaisir à faire l'Italy Divide et la Three Peaks Bike Race.
Non,
et franchement, je vous encourage à faire pareil.
Ah oui, ok, un peu. Un peu.
Bon, ben voilà.
Voilà.